Lille avec Leïla Kadouboudadi.
Bonjour à tous.
Marina Rollman. Ça va Marina?
Mais oui, ça va bien.
Ah, mais j'étais pas sûr. Daniel Morin.
Oui, bonjour.
Albert Agou.
Bonjour.
Tout à l'heure, Tanguy Passureau. Et nos invités sont Lolita Chama et Lodie Boucher.
Bravo.
Merci, mesdemoiselles, de venir à ce micro nous parler d'un sujet un peu délicat, mais qui est le sujet, la toile de fond d'une série, d'une nouvelle série sur Arte. C'est toujours un événement d'ailleurs quand il y a une nouvelle série comme ça sur Arte, parce qu'on se dit il y a une patte Arte. Est-ce que vous avez ce sentiment d'ailleurs vous quand on vous l'a proposé? Vous avez d'abord demandé où ça serait diffusé, comment ça serait diffusé, ou le fait que ce soit Laetitia Masson était déjà quelque chose de rassurant pour vous, Lolita?
Moi, je connaissais le travail de Laetitia, mais j'avais jamais travaillé avec elle, contrairement à Elodie qui avait déjà fait plusieurs choses avec elle. Mais non, c'est vrai que quand elle m'a proposé le film, je me suis pas du tout dit que c'était quelque chose pour la télé, mais j'avais l'impression que c'était un vrai film de cinéma.
C'est ça, voilà. C'est ça. Et vous, Elodie, vous saviez
Moi, je connaissais, j'avais bossé avec Laetitia déjà, et j'avais déjà travaillé avec Arte dans les années 90 avec les superbes séries, Tous les garçons et les filles. Ouais. Et avec Le Péril Jeune et le film de Téchiné. Donc c'est vrai que c'est une plateforme qui m'est chère
et qui est rassurante justement pour des actrices
aussi.
En se disant
c'est quand même un gage de qualité.
Surtout qu'avec la sortie, maintenant Arte sort régulièrement des mini-séries sur ce format-là, 3 épisodes, et c'est vraiment des films, des films avec une vraie intensité dramatique, resserrée quand même, parce que 3 épisodes c'est pas simple pour raconter une histoire, mais on a quand même le temps de s'installer.
Alors justement, demain, le premier épisode sera diffusé à 20h55 sur Arte, c'est déjà en intégralité sur arte.tv. Quoi, tu me fais non?
Ah non, j'ai rien dit, j'ai bougé ma mèche.
Ah d'accord.
J'ai bougé ma tête.
Bah oui, mais si tu remets ta mèche au moment...
J'ai un problème de... Voilà.
D'accord.
Voilà.
Ok, très bien, c'est très radiophonique. Donc du 9 au 17 janvier, vous pourrez voir les trois épisodes. On va surtout évoquer le point de départ qui est...
L'histoire d'une petite
fille. Ouais, l'histoire.
N'en dis pas trop.
Bah c'est délicat. Comment tu dirais toi d'ailleurs?
Bah c'est l'histoire d'une petite fille dans une cité. On peut donner un lieu, mais à la limite le lieu importe peu finalement. En tout cas, on est au soleil. Une petite fille, une jolie petite brune.
On a l'impression d'être du côté de Marseille ou de Fos-sur-Mer.
Ouais,
plus Fos-sur-Mer.
Qui est un peu laissée à elle-même, qui est seule avec sa mère et une mère qui est aimante sans doute à sa façon, mais qui le manifeste de manière assez curieuse.
Qui rêve d'être danseuse et qui se demande même si son enfant n'est pas un boulet à sa carrière.
Qui le pense même forcément et foncièrement que cet enfant a entravé sa vie. Et cette petite fille est livrée à elle-même, étant un peu en refus de beaucoup de choses, de l'école, des autres. Elle est juste affamée. Et c'est ce geste-là, c'est cette pulsion-là qui va la conduire à avoir une autre pulsion, à savoir...
Tuer.
On est obligé de le dire.
C'est l'histoire du film.
S'en prendre à un petit garçon qui est là.
Avec un paquet de gâteaux.
Voilà. Et elle veut juste le paquet de gâteaux. Et cet enfant lui refuse ce paquet de gâteaux. Et tout d'un coup, voilà, il y a quelque chose qui sort d'elle. De façon assez incompréhensible. Mais l'idée de la série, c'est ça. C'est de pouvoir comprendre qui est cet enfant. Il y a une phrase très forte. J'étais pas un enfant, j'étais un chien. Et ça veut dire aussi beaucoup sur ce personnage.
Que vous incarnez, donc Elodie, vous
adulte.
Oui.
c'est un peu de maquillage, c'est à faire. Hein.
Elle est géniale cette petite fille déjà, il faut le dire. Hein, dans la première partie de la série, cette petite, elle est absolument magnifique en plus.
Et on sent la psychopathe qui sommeille.
Non, elle a quelque chose de très sauvage.
Elle Brunetto, elle s'appelle.
Elle est très jolie. Ouais.
C'est ça, non? Ou je me trompe?
Non, elle s'appelle pas comme ça. Elle s'appelle Mélodie.
Pardon.
Mélodie.
Alors je me suis... Ah oui, absolument, Mélodie... Gualteros. Et c'est Maya, petite, qui s'appelle... qui est jouée par El Buenetto. Pardon, voilà. Pour avoir inversé les deux enfants. Comment vous présenteriez votre personnage, Elodie, justement? Parce qu'elle va avoir... évidemment, toute sa vie sera hantée par ce geste. Et elle cherchera à mettre un voile sur ce qui s'est passé, à changer d'identité, à se racheter... évidemment, mais le passé va la rattraper.
Ah oui, c'est une enfance qui bascule, en fait, pour
une
raison concrète qu'on a évoquée, mais en même temps, pour plein de raisons qui la poussent à avoir cette pulsion-là, à ce moment-là. Et puis après, ben, c'est quelque chose qui s'imprime en, en vous, j'imagine, toute une vie. Et puis malgré le fait de payer, quelque part, puisqu'elle elle est placée pendant une dizaine d'années
en détention.
Dans un centre de redressement, ou je ne sais pas comment on appelle ça, et ben, le passé la rattrape. Donc c'est comment... comment on vit ou comment on arrive à vivre avec une telle histoire.
Et arrive donc votre personnage, Lolita Chama. Vous, vous êtes la sœur adulte, donc la sœur de Polo. Sœur qui est...
Le petit garçon qui a été tué.
Alors, Polo est le petit garçon qui a été tué. Et la sœur a vu toute la scène avec son doudou. Elle était dans un coin. Elle a assisté à tout. Et on imagine que le choc est retentissant. Mais on se demande ce qui se passe, justement, dans la tête d'un adulte qui a vécu cette scène. Enfant, en se demandant est-ce que c'est comprendre ce qui s'est passé, est-ce que c'est s'en débarrasser, est-ce que c'est régler des comptes, est-ce que c'est poursuivre une vérité, et c'est tout ce cheminement-là, puisque vous êtes le moteur de l'intrigue du film.
Ben,
après qu'un article de journal vous
voilà, refasse
sortir l'affaire.
Voilà, refasse sortir l'affaire. Je pense que ce personnage de Maya, elle-même, s'est enfermée pendant des années dans. On la voit avec des jeux vidéo, avec. Elle parle que aux chevaux, donc c'est un personnage très spécial quand même, qui est dans un monde un peu clos. Et tout d'un coup, elle voit cet article ça fait ressortir cette violence en elle aussi, puisqu'on parlait de la violence. Donc c'est vraiment la confrontation de ces deux violences-là aussi, toute la série après. Et ce qui est très beau, c'est que je pense que. Évidemment, enfin, sinon ça serait pas intéressant. Maya, peu à peu, va quand même chercher à comprendre Aurore, et c'est l'histoire aussi de cette rencontre et de cette pas de ce pardon.
Donc la sœur de
Polo,
de l'enfant assassiné, veut comprendre ce qui s'est passé dans la tête.
Voilà, se faisant passer pour un écrivain, mais en fait, au fond, c'est plus une renaissance pour elle, et ça va être une renaissance pour Aurore aussi.
Oui, parce qu'elles ont l'air tellement opposées, et pourtant elles sont très très proches, parce qu'elles ont toutes les deux vécu ce traumatisme enfant. C'est ce qui les rapproche, c'est même plus ce que j'ai trouvé beau dans la série, c'est qu'on n'est même plus en train de traiter forcément le bourreau et la victime.
Voilà.
On est en train de parler de deux êtres qui sont devenus des jeunes femmes, qui sont perdues, chacune à leur façon dans leur vie, même si votre personnage à vous, Elodie, donne la sensation qu'il a avancé, puisqu'elle a eu un enfant. Chose que votre personnage ne pourra jamais s'autoriser d'une certaine façon.
Elle le dit à un moment donné.
Voilà.
L'une essaie d'oublier, l'autre ne peut pas oublier et veut comprendre.
Mais vous êtes très proche. Vous êtes finalement deux enfants blessés, quoi.
Exactement.
Tout ça sous la direction de Laetitia Masson, qui vous a d'ailleurs dirigé en vous guidant sur ce qu'elle voulait faire passer, de quelle manière. Comment travaille Laetitia Masson?
On travaille assez simplement, en fait. On n'entre pas du tout dans des discours psychologiques, du tout.
Pourtant,
mais bon, voilà, c'est la magie du cinéma.
Il y a tellement de psychologie dans les personnages.
Ouais. Mais peut-être qu'il y en a tellement que, justement, on a juste à faire et être, sans chercher à analyser, comprendre, détailler, décortiquer. Donc, j'ai plus l'impression qu'elle nous insuffle une espèce de musique...
D'atmosphère
qui... quelque chose qui était assez confiné pour nous deux, en tout cas, à nous imposer de parler assez bas. Et donc, on a pris cette note avec Lolita, je crois.
Et puis, les cinéastes, je trouve que quand ils réussissent quelque chose, c'est que je trouve qu'ils réussissent à mettre les bonnes personnes ensemble. Enfin, si je peux me permettre de dire
ça.
Oui,
non, c'est vrai.
Et je trouve que ça commence par là aussi.
Par le casting,
les films.
Oui, carrément.
Et elle a eu la bonne idée de nous mettre ensemble, parce que je pense que les films, ça part de ça aussi. Et que, voilà.
L'alchimie de vous avoir réunis.
Et à ses côtés, il y a Éric Dumont à l'image qui vient du documentaire.
Ouais.
Donc
oui,
je pense que ça doit apporter aussi autre chose à votre pratique et à l'ensemble. Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Mais c'est vrai qu'Éric, il vient du documentaire. Il avait fait
La loi du marché.
C'était le premier film de fiction auquel il participait. Mais c'est vrai qu'il avait un souffle, il avait une énergie.
Il il est très fort, il va très vite, voilà. Il suit les acteurs et ça c'était...
Donc on tournait très rapidement, on faisait souvent une ou deux prises et lui nous suivait en fait. Il y avait peu d'installations, lumière, il n'y avait pas du tout.
Et vous, vous aimez ça ? De ne faire qu'une ou deux prises ou vous préféreriez remettre...
Le métier sur l'ouvrage,
ça dépend. Après, ça dépend des scènes.
Je l'avais, mais je me dis, mais enfin.
Moi, je peux n'oublier pas la fin des paroles.
D'accord.
Ça dépend, mais c'est vrai que l'énergie, c'est génial aussi au cinéma. Enfin, quand on sent que ça va vite, que c'est comme un voyage. En plus, le film a un peu des allures comme ça, dû au paysage et.
Oui, il y a un petit côté road movie aussi.
Il y a aussi un peu ça.
Ouais. Ça s'appelle Aurore, ça commence à partir de demain, 20h55 sur Arte.
Si je peux me permettre, je crois que c'est tous les épisodes demain soir.
C'est tous les épisodes demain soir. Oui, pardon, j'ai dit que ça commence, oui.
Tous les épisodes demain soir. Le premier, mais suivi de deux autres.
C'est ça que je voulais dire.
Je pense qu'ils vont le diffuser dans cet ordre-là, en plus. Ouais. C'est fou.
Enfin, on vérifiera quand même.
C'est fou. Et tout ça est visible, donc, aussi sur le site arte.tv. J'espère, Jean-Dominique Besnéard, que vous avez bien compris pourquoi Lolita et Elodie étaient nos invités.
Tout d'abord, salut les survivantes 2017. Bonne année. Va falloir vous accrocher.
Oui.
Et pour vous, mon cher Nagui, tous mes souhaits sincères de super santé, de félicité.
C'est gentil.
Alors, la prospérité, le succès, les comptes chocs à Jersey, Bahamas, Liechtenstein. Je vous les souhaite pas parce que je voudrais pas vous porter la poisse en vous souhaitant ce que vous avez déjà en masse. Bonne année à vous aussi, Elodie Bouchez et Lolita Chama. Et comme dirait mon cousin Dominique, quel casting sans ça dans ce film, j'ai la direction de Lisa Masson. Bon, mais, soyons sérieux un instant, s'il vous plaît.
Ça va être dur.
Comme vous touchez ici. Comme vous tous ici, je veux dire comme vous tous ici,
d'accord.
J'ai été bouleversé par trois épisodes d'Aurore, on passait en même temps. La série dont vous venez de parler avec beaucoup de sensibilité, Nagui, et je vous en félicite. Mais oui, c'est parce que c'est pas facile, un sujet comme ça, une gauche qui assassine un autre gauche, on touche à l'indicible, l'imaginable, l'atrocité que le sens commun repousse parce que ça le dépasse.
Oui. Ben oui, j'aurais pas en même temps parce que ça devient très humide.
J'ai beau être l'orthophoniste des stars,
on comprend pas.
Je suis si ému que j'en bafouille, ma langue fourche, ça vous brûle les côtes d'atouche, désolé. Bon, il y en a un autre qui était désolé ce matin, mais avant l'émission, c'est GNB, notre Eliac chef qui est en régie là-bas derrière moi. Ça mérite explication. Ok, Nagui vient à l'instant de faire chialer la France en direct. Mais ce matin, quand sur sa fiche, il a lu que vous étiez ses invités, cher Elodie Bouchez, cher Lolita Chama, il a explosé. Tout en tabassant GNB, il vociférait. Je déteste la violence, t'es chiffonné, c'est zinzin, une série avec une jeune assassin, qui se crucie d'un petit garçon, c'est sordide. T'as quoi dans le citron? Tu salis tout, tu saoules tout.
Oui, mais vous mouillez beaucoup.
L'enfance, vous aussi. L'enfance, ajoutait-il en donnant un dernier coup de chaton dans le ventre de GNB, c'est sacré, pas touche. Alors la Bouchez et la Chama, j'en car passer pour autre chose. Mais oh mon maître, là tu fais la voix de GNB. Elles sont dans la loge des invités. Bon, ok, je vais assurer, mais faites vite venir Jean-Dominique Besnéard. Et me voici. Et pour détendre l'atmosphère, alors un petit test de diction tout simple. Elodie, c'est pour vous, vous allez me prononcer ça très très vite.
Il a dit s'il vous plaît, on n'a pas bien entendu, mais il a dit
ensuite,
s'il
Lolita,
vous plaît.
Oui, s'il vous plaît.
Oui, évidemment.
Allez-y Elodie, de plus en plus vite.
Truite crue, truite cuite.
Plus vite, plus vite.
Truite crue,
plus vite. Je vais soumettre mes actrices en général, c'est
truite crue, truite.
À vous, Lolita.
Truite crue, truite cuite.
Plus vite.
Truite cuite, crue, truite cuite.
Accélère une dernière fois.
Truite crue, truite cuite.
Ouais, bravo.
Bien.
Oui. Sur France Inter.
Je pense à des fins de soirée, tu sais, quand les mots sortent pas dans le bon ordre.
Ah ouais, mais
je vois pas de quoi tu parles.
Je vois pas de quoi tu parles.
Mais là, tu veux nous parler?
Aurore, l'intégralité, donc à 20h55, ce jeudi sur Arte, demain soir. Et Elodie Bouchez et Lolita Chama sont nos invités. Vos oreilles ont sifflé, Leïla, quand on vous a dit qu'elle venait.
Oui, et quand je pense à vous, Elodie, je pense à une aventure qui a aussi eu Arte comme point de départ. Écoutez.
Vous voulez pas danser?
Non, je sais pas danser la valse. Tu le connais?
Oui, il est au lycée avec moi, mais c'est vraiment un pauvre con. Franchement, je comprends pas ce que tu fais avec lui. Il aime pas les filles et je t'assure que je suis même passé pour le savoir.
Il les aime pas comme toi, mais il les aime à sa façon.
C'est un extrait de la bande-annonce des Roseaux Sauvages de Téchiné, dans lequel vous avez joué, Lodi. Il s'agit de la version longue du téléfilm Le Chêne et le Roseau, qui fait partie de la collection commandée par Arte, Tous les garçons et les filles de leur âge. On l'a évoqué tout à l'heure. Un film qui vous a permis, Lodi, de remporter le César du meilleur espoir féminin. Et aujourd'hui, avec Aurore, on retrouve, comme pour les Roseaux Sauvages, une réalisatrice de cinéma, Laetitia Masson, une chaîne de télé, Arte. Est-ce que finalement les vraies innovations, on doit les attendre du côté de la télé, ou en tout cas on doit y être sensible quand on est une comédienne?
Je sais pas. Après, c'est vrai que là on assiste tous à cette vague de séries qui nous vient beaucoup des États-Unis, mmh, et qui nous emmène assez loin au niveau des histoires, au niveau de la complexité des personnages. Et c'est vrai que même aux États-Unis, on constate que les plus beaux rôles pour les acteurs et surtout pour les femmes sont beaucoup plus dans les séries qu'au cinéma.
Vous pensez à quelle série, par exemple, américaine, qui vous a touché ou impressionné récemment?
Concernant le rôle, la place des femmes,
oui, ou, ouais.
Je pense à la série avec Nicole Kidman.
Ah, je pense à la Big Little Lies.
Exactement, où les femmes sont vraiment
qui a été récompensée
à
au Golden Globe. Ouais,
ouais.
C'est vraiment une super. Ça, c'est très très bien.
Ou même Homeland avec le personnage de Claire Danes. Donc c'est vrai que il y a quelque chose qui se passe, mais bon. Voilà, c'est un autre format, c'est une autre proposition. Le cinéma et un film de fiction restera quand même une entité particulière et une expérience autre. Voilà, c'est pas,
alors,
c'est pas la même
expérience. Qu'est-ce qui fait, pardon, que Aurore, si on devait le ramener à 1h45 de film, ne pourrait pas sortir au cinéma? Pourquoi la télé est le moteur de ce genre de production et pourquoi le cinéma ne peut pas l'être?
Je pense que le cinéma pourrait l'être. Là, c'était une volonté aussi de Laetitia Masson de se plier
à l'exercice des trois épisodes
et à trouver le rythme à l'intérieur de ça et les moments de suspense, les rebonds, etc.
Puis je pense que les chaînes comme Arte ont de plus en plus envie de faire appel aussi à des réalisateurs de cinéma comme Laetitia Masson, pour faire des passerelles de plus en plus.
Enfin, comme c'était le cas justement
avec Téchiné,
avec ces séries là qui avaient donné naissance à de films superbes.
Ouais, c'est aussi une façon, parce que Laetitia Masson est pas débutante, donc accepter quand même de faire une série pour Arte, on voit bien le côté quand même très élégant, mais en même temps les moyens ne sont pas exactement les mêmes que de faire un film au cinéma.
Bah, en ce moment, vous savez, il y a aussi beaucoup de films au cinéma qui sont avec très peu de moyens.
C'est vrai, oui,
quelque
part.
Et Arte a beaucoup d'argent. Donc
non, mais l'économie d'une série d'un trois fois comme ça, c'est pas non plus. Voilà. Et vous aussi, Lolita, vous êtes passée par la télévision. Je pense à L'Emprise, notamment, qui a eu un grand retentissement dans la société, de Claude-Michel Rome, mais également dans d'autres séries, par exemple Bankable, téléfilm de Mona Achache, téléfilm. Là aussi, parce que ce que j'ai trouvé beau dans Aurore, c'est la place faite aux femmes, non pas parce que c'est Laetitia Masson qui est derrière la caméra, mais c'est que tout d'un coup on avait des personnages féminins qui sont vraiment développés, qui ne sont pas des faire-valoir d'hommes. Est-ce que ça aussi, quand on est...
C'est même l'inverse, c'est les hommes qui sont faire-valoir...
Non, ils sont pas faire-valoir, non, parce que c'est pas forcément l'inverse, ils sont juste pas centrales dans le nœud narratif, parce que on n'est pas obligé d'avoir...
Moi, je trouve que le copain anglais musicien d'Elodie dans le film,
il n'est pas décoratif.
Non, mais il la met en valeur, il la met en avant.
Oui, mais voilà,
justement,
c'est ça.
C'est
ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que.
Je ne vous ai pas écouté.
D'accord. Alors je poursuis, on prend la
liste. Chaque partie de carte,
justement, ce n'est pas des faire-valoir.
C'est ça.
Ils sont là, même s'ils sont en second plan. Mais...
Ils sont adjuvants, ils ont un vrai rôle, ils ont une vraie singularité dans le scénario, il y a un vrai atout. Et je me demandais justement, côté téléfilm, côté télévision, est-ce que là aussi, vous êtes, vous, par exemple, à l'initiative de projet, est-ce que vous avez cette envie-là de se dire qu'il y a un terrain de jeu?
Oui,
il faut conquérir.
Je suis pas, malheureusement, parce qu'on n'a pas, j'ai pas le pouvoir que je voudrais, mais on a bien sûr qu'on a toujours envie de conquérir les terrains qui ne sont pas encore conquis. Mm-hmm. Donc après, moi personnellement, quand je tourne quelque chose, je me dis pas que c'est de la télé ou du cinéma, enfin ouais. même du théâtre. Je me dis que je joue avec des gens, des hommes, des femmes. Enfin, vous parliez des femmes. Après, moi, je tourne beaucoup, beaucoup avec des femmes comme metteur en scène. Voilà, c'est un hasard.
Comment vous l'expliquez?
Je sais pas. Hasard, mais ouais. en tout cas, l'année, j'ai fait beaucoup de films avec des réalisatrices. J'espère aussi tourner avec des réalisateurs hommes.
Hein.
Non, pas du
l'appel,
tout.
L'appel est lancé.
Non, mais je rigole. Je tourne un peu avec des réalisateurs, mais moins.
Et quand vous parlez des séries américaines, vous parlez de Nicole Kidman, vous avez l'air toutes les deux complètement convaincues et d'accord sur l'intérêt de ce rôle-là. Est-ce que vous aussi, de vos côtés, on parle des actrices américaines qui essayent de créer des scénarios, de faire des boîtes de prod pour justement donner un nouvel élan à la création sans laisser de côté les femmes? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle ou qui vous donne envie de vous réunir?
Vous nous donnez l'idée, maintenant on va le faire après l'émission.
Comme Nagui n'écoute pas, il va écrire les statuts du truc. Vous signez en bas, c'est bon.
Voilà, c'est ça.
Tout à l'heure, nous allons recevoir Antoine Guedney, qui est pédopsie et psychanalyste, et chef du service psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Bichat à Paris. Ça veut donc dire que nous allons évoquer, évidemment, les problèmes de violence liés à l'enfance. Et d'ailleurs, de savoir à partir de quel moment on sort des jeux de l'enfance, ça devient réellement une violence. Parce que on se demande même si l'enfant... qui passe à l'acte et qui fait ce geste-là se rend compte de la violence avec laquelle elle le fait ou pas. On l'évoquera avec lui tout à l'heure. Mais d'abord, voici l'humeur de Marina Rollman. Oh, une femme!
Alors moi, je parle de choses plus légères. C'est une bonne nouvelle. Voilà, ça fait 10 jours qu'Alain Berset est rentré en fonction et c'est... ça vous.
Je sais pas qui c'est.
Vous savez pas qui c'est? C'est le nouveau président suisse. Putain, personne sait qui c'est. Ça me rend dingue.
Il y a un président suisse?
Oui, chaque année c'est la même chose. Chaque année on a un nouveau, une nouvelle présidente en Suisse.
C'est
et
vrai,
chaque
ouais,
année tout le monde s'en fout.
Tous les ans?
Mais oui, chaque année. Mais ça, c'est typiquement
la vraie démocratie.
C'est typiquement la gauche inter. Hein, pour recommander des spectacles de mimes bhoutanais ou du cinéma iranien, il y a du monde. Mais pour ce qui est de s'intéresser à son petit voisin suisse, un petit peu chiant mais pas méchant, là, il y a plus personne. Alors oui, j'admets qu'il y avait pas vraiment de gros suspense parce que en gros, la Suisse, ça marche comme ça. C'est pas une élection directe. Il y a 7 ministres et chaque année, par ordre d'ancienneté, c'est un des 7 qui devient président. Donc l'élection, je veux dire, elle existe formellement, mais c'est très rare que ça se fasse pas. Ce qui fait que oui, la présidence en Suisse, c'est un petit peu comme une chenille en soirée. T'as beau te faire discret, regarder ailleurs, au bout d'un moment, si t'es là, t'y passes. Quoi. Mais c'est pas une raison. Bon, cela dit, même pour nous, c'est pas un événement. À chaque fois qu'ils font des sondages, il y a entre 25% et 50% des Suisses qui ne savent pas qui est en fonction. Tu veux disparaître, tu deviens président en Suisse. Hein. La Rousseau, les membres des G-Squad, Ramoncho du Big Deal, ils l'ont tous fait plusieurs fois. Mais bah oui, qu'est-ce qu'il est devenu? Bah, il était président en Suisse. Mais alors la question, c'est pourquoi est-ce que cette année, je décide comme ça d'arracher brutalement mon président de l'anonymat qui vient avec sa fonction et de l'imposer à des millions d'auditeurs qui, à Noël, avaient demandé un Magimix et non un cours de civisme helvétique? Eh bien, parce que mon souci avec Alain Berset, c'est que je trouve qu'il ressemble un petit peu à Édouard Philippe, votre Premier ministre. Et je suis pas d'accord que votre Premier ministre soit plus connu que mon président. Voici donc 3 bonnes raisons de vous intéresser d'un peu plus près à Alain Berset. Premier point, alors ils sont tous les deux chauves, mais Alain Berset, contrairement à Édouard Philippe qui essaye fourbement de faire diversion en se faisant pousser des cheveux sur le menton, Alain Berset assume complètement le côté patinoire à mouches, il n'est que surface réfléchissant, ce qui est pratique si vous décidez une nuit d'aller faire une balade à vélo avec lui. Deuxième point, ils sont tous les deux sportifs, mais quand Édouard Philippe fait de la boxe, genre le bad boy du Havre, oulala, trop difficile de taper dans un matelas avec des gants de cuisine, Alain Berset fait le choix de bonhomme et devient champion de 800 mètres. Est-ce qu'il y a moins glamour que le 800 mètres? Même un javeliste à côté, c'est un aspirateur à nénette. Et c'est ça, c'est là qu'on voit que c'est un vrai battant, Alain. Parce que dans la course à pied, tu vois, il aurait pu faire des choix faciles. Le sprint, tu vois, c'est cool, le guépard, les éclairs, tout ça. À l'autre extrême, il aurait pu choisir le marathon. Il y a ce côté dépassement de soi, mental de l'acier. Et non, le type assume la suissitude jusqu'au bout et il choisit au milieu. Le 800 mètres, voilà. C'est limite un sport que tu peux faire malgré toi. Régulièrement, il y a des gens qui font 800 mètres sans faire exprès. Et lui, il y dédie sa jeunesse. Et je trouve ça très beau. Quelqu'un connaît un autre champion de 800 mètres?
Sûrement.
Bah non, parce qu'ils sont en voie d'extinction vu qu'ils baissent pas. Or, non seulement Alain Berset a une femme, mais il a 3 enfants. 3 enfants. Je veux dire, 1, ça peut être un accident. 3, ça veut dire qu'il a réussi à convaincre cette femme 3 fois de faire des enfants avec lui. Malgré le fait qu'il était champion de 800 mètres. Et ça, je trouve que c'est un truc de bonhomme, d'accord? Parce que c'est facile de se reproduire quand on fait de la boxe et qu'on a une barbe. Il y a beaucoup moins de champions de 800 mètres qui sont papas. Et qui deviennent présidents. D'un petit pays, certes, qui tire plus ou moins son chef à zigzag-zoug, mais quand même. Et troisième différence majeure. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas trouvé trace d'Edouard Philippe sur internet faisant de la musique, alors qu'Alain Berset, sous ses airs de type dont la conception d'une soirée détente c'est de manger des fruits secs, C'est lui qui fait du piano là.
Sans blague.
Je l'adore. Mais ouais, je suis trop fière. Allez, votez Berset. Ah bah non, on peut pas. Désolé.
Ninja président.
Merci.
France Inter. Maggie. La bande originale.
Et à propos de bande originale et à propos de musique aussi, dans Aurore, il y a...
La bande son est géniale, hein, voilà, c'est
super.
Ah oui, il y a aussi...
Nous n'irons plus au bois, mamie les lauriers sont coupés, la belle...
Jean-Louis Murat. Et les ronces, quand on tourne, on sait, on connaît la bande originale ou pas, parce que hier, François Cluzet nous racontait que pour les films de Guillaume Canet, ils écoutaient la musique d'une scène avant d'aller jouer la scène. C'était le cas. Vous saviez qu'il y aurait Walk Like an Egyptian, par exemple, des Bengals, ou pas du tout?
Non, on savait pas.
Non, je pense pas que c'était écrit dans le scénario. Enfin, non. Je me souviens pas.
C'est un truc qui vient en plus. Ça aide ou pas? Parce que là, encore une fois, François nous disait que ça a aidé à rentrer dans l'état d'esprit, dans l'humeur d'une scène, de savoir quelle est la musique qui va accompagner.
Aider. Moi, j'ai fait un film l'année dernière où toute la bande originale était déjà, en tout cas, en train d'être faite. La chanteuse était... Donc, il y avait une sorte de tonalité. J'écoute ça, bien sûr, ça peut aider à rentrer dans l'univers du film. Mais
après, et la musique du film, très organique, ou synthétique, du moins électrique, électro, est faite par le comédien qui joue dans le film.
Maurice
ou pas.
Green.
Ouais. Oui, Maurice est un musicien. Ouais. Ouais.
D'accord, mais donc, c'est lui qui a fait toute la musique
du film. Il n'a pas fait la musique originale, a été composée, orchestrée par
Bruno Coulet,
mais Maurice a composé les morceaux.
Que l'on entend, c'est vraiment lui.
D'accord.
Jeudi donc sur Arte, les trois épisodes à partir de 20h55 d'Aurore. À propos de musique et avant d'accueillir notre invité directeur du service
psychiatre
à Bichat, nous allons parler de la musique que vous écoutiez par exemple dans les années 80. En 88, Lolita, vous écoutiez...
C'est triste.
Mais non, c'est pas triste.
Ça va, Lolita?
Est-ce que ce morpion, souvent, vous savez le jouer à la guitare ou pas?
Pas du tout.
À la batterie.
Ça, c'est le premier morceau que t'apprends quand tu joues de la guitare.
Ah ouais.
Premier.
Bonjour.
Ah ouais. Avec la guitare comme ça, mais entre moi, les gens.
Non, ça c'est Gypsy King.
J'avais
4
ans.
Non, mais la guitare.
Mais alors qui vous l'a imposé?
Voilà. Comment vous avez entendu?
Non, personne. J'ai vu le film Les Jeux Interdits. Ouais. Ça m'a... Je l'ai revu comme on voit un peu obsessionnellement les films quand on est enfant. Et la scène de la fin où Brigitte Fossé appelle Michel qui va partir, ça m'a marqué longtemps.
Voilà. Et la musique qui
et
va
cette
avec,
musique qui va
voilà,
avec
Narcisse
voilà,
Goyépès,
qui est très triste, mais qui est très belle.
Et pourquoi 88? Parce que c'est votre première apparition au cinéma. Vous incarnez dans Une affaire de femme de Claude Chabrol la fille d'Isabelle Huppert, à savoir votre
ce
maman
est,
dans
un,
la vie.
Ce qui est en bon choix, parce qu'il y a une ressemblance.
Ouais, je pense qu'en termes de casting, voilà, c'est les bon bonnes choix. Personnes bah, au bon endroit.
J'étais là, donc du coup, c'était plus simple.
Hein. Ça aide.
Ouais, ça aide.
Ouais, justement, comment ça s'est passé? Vous étiez là et c'était quoi? Un rêve de gamine ou juste une opportunité? Vous êtes sur le tournage.
J'avais 4 ans, donc je pense qu'à 4 ouais. ans, on exprime ses rêves, mais bon, pas totalement de façon formulée, mais. En tout cas, non, j'étais là, et c'est vrai que c'est quelque chose que je raconte souvent. Pourtant, j'ai pas tellement de souvenirs de mon enfance comme ça, si petite, mais j'ai un souvenir très très précis de ce tournage. François Cluzet, Marie Trintignant, les petits garçons qui faisaient mes frères, qui s'alternaient avec les deux jumeaux. Ça se tournait à Dieppe, et je pense que le cinéma fixe la mémoire très fort, et c'est vrai que c'est un tournage que j'oublierai jamais. C'est comme si c'était hier. Voilà. Et
comme si ça avait partie de votre vie personnelle.
Complètement,
en fait.
Exactement. Ah, donc ouais. Après, voilà, c'est ça. Je le vivais pas du tout comme un tournage parce que j'étais petite et que tout se mélangeait. Mais c'est vrai que j'ai un souvenir très précis et assez ému aussi parce que j'ai des souvenirs avec Marie Trintignant sur un manège. On était sur un cheval de bois à Dieppe et il y a cette scène dans le film. Enfin, j'ai des souvenirs comme ça.
Et très précis, ouais.
Voilà.
Et quelques années plus tard, vous remettez ça, vous êtes encore une petite fille, toujours aux côtés de votre mère, dans Malina.
De Werner Schröter, ouais. En Allemagne, enfin en Autriche. Un film très violent, où j'ai des scènes où je passe dans une orgie, où je meurs où j'ai un accident d'un mur, enfin un film très particulier.
Vous n'avez même pas le droit de voir le film, c'est ça? Vos parents vous interdisent de voir
le film?
Oui,
mais je l'ai vu après, plus tard. Mais c'est vrai que c'était une expérience un peu spéciale, ouais. J'étais très... très perturbé, mais bon.
Et là, comment ça se passe?
On a un pédopsie qui va venir vous soigner en deux secondes.
Et là, quelques années plus tard, qu'est-ce qui fait que vous êtes encore dans ce film-là? Est-ce que on peut dire que progressivement, le rêve commence à être formulé ou pas?
Alors, en jouant dans Aurore, vous voulez dire?
Non, dans Malina. J'imagine qu'aujourd'hui, ouais, vous avez formulé complètement.
Oui, mais après, bon, j'avais 6 ans aussi, donc là aussi, j'avais pas. Ouais. C'était plus simple de me demander à moi qu'à une autre petite fille, puisque j'étais sur place.
D'accord.
Ah ouais. Vous savez, les films, c'est ça aussi. Hein. Ouais. La vie et les films, ça se mélange souvent. Voilà.
Cette même période, dans les années 80, vous écoutiez Élodie.
J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise.
En réécoutant d'ailleurs ce morceau, ça vous évoque quel genre de souvenir?
Bah, j'ai choisi ce morceau aussi parce que par rapport à la période, ça évoque le premier film dans lequel j'ai joué, qui était le dernier film de Serge Gainsbourg.
Stan the Flasher.
Voilà.
Vous étiez danseuse, hein, c'est ça, à l'époque, vous vouliez être danseuse. On rejoint un tout petit peu aussi le personnage autour d'Aurore.
Oui. Ah,
non, vous n'êtes pas d'accord avec le...
Non, parce que je n'aurais jamais pu être danseuse, mais donc je rêvais... Je ne pense pas que je pouvais m'autoriser à rêver être danseuse, mais...
Vous suiviez des cours de danse, en tout cas, vous étiez passionnée par la danse. Ouais.
Et comment se fait la rencontre avec Gainsbourg et cette première apparition au cinéma?
En fait, oui, il avait vu ma photo, il y avait une photo de moi de trois quarts d'eau, et il s'était arrêté sur cette photo. Et donc, il avait demandé au gars qui faisait le casting pour son film de me rencontrer dans un premier temps et de me faire lire en anglais « To be or not to be ». Donc,
je crois que vous avez fait allemand première langue, ça tombait bien.
Ça aide.
Et donc ça a donné ce que ça a donné, mais toujours est-il qu'il a demandé à me rencontrer par la suite, et puis voilà, c'est comme ça que...
C'est que vous étiez déjà en tout cas dans cette envie de faire du cinéma.
Oui, voilà.
Ouais, ouais, c'était...
Et vous aviez... et effectivement, à partir de la danse, bien sûr, mais...
Et leur premier jour de tournage avec Gainsbourg derrière la caméra, parce que Gainsbourg c'était déjà quelqu'un d'assez impressionnant à l'époque.
Oui, ben... Moi, je l'appréciais beaucoup, mes parents l'écoutaient beaucoup. Bon, moi, j'écoutais plus Madonna, mais voilà, ça, il faisait partie de ma vie et de ce que j'entendais à la maison. Donc, je sais pas, j'ai le souvenir d'une grande insouciance, pas d'impertinence, mais quand même de quelque chose d'assez détaché venant de moi. Je pense que j'aurais pas du tout vécu ce tournage de la même façon aujourd'hui.
Oui.
Voilà.
Et alors, il vous propose aussi d'enregistrer la bande originale du film.
Oui.
Et vous refusez de chanter alors que Gainsbourg vous le demande.
Oui. Mais en fait, je savais pas chanter. Je n'avais jamais chanté. On m'avait toujours fait comprendre chez moi, mais de manière pas du tout...
Agressive,
ouais. A priori, que je chantais mal, en fait. Donc, quand je prenais des cours de piano, il y avait des cours de chorale, et moi, on me mettait tout le temps derrière, et on me disait de faire du playback. Donc, c'est vrai que j'avais assimilé le fait de ne pas chanter, c'était pas mon truc. Et quand il m'a proposé de passer du temps avec lui rue de Verneuil, et qu'on essaye de chanter,
de travailler.
Ben, moi, j'étais terrée dans le canapé, et puis je... Voilà, j'imitais pas du tout du mien, quoi. Je voulais pas chanter.
Et vous vouliez pas non plus être assimilée, je crois, à... c'était l'époque de Vanessa, d'Elsa, de ces chanteuses.
Oui, c'est-à-dire que moi, si j'avais un désir, c'était d'être actrice, et j'avais pas envie d'être chanteuse, et j'avais pas envie d'être une Lolita, quelque chose qui... Lolita. Voilà, j'avais des idées...
Ne prenez pas mal.
Non,
prenez
je pas mal. Pas mal du tout. Je sais que c'est un commun.
C'est une source de lumière surtout. Lolita.
J'étais pas dans ce désir.
Ouais.
Et je l'affirmais de manière un peu punk en fait.
Et vous regrettez là aujourd'hui, se dire
avec le temps. C'est vrai que s'il y avait une personne avec qui...
Il fallait chanter,
c'était sans doute lui. Mais c'est comme ça.
D'autant qu'à entendre votre voix et celle qu'il a...
Oui, il n'a pas fait que des grandes voix.
Non, non, je veux dire, je pense à Gianni, je pense à Birkin, évidemment, ouais. Enfin, ou même Charlotte, ça irait très, 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 très bien. Votre voix irait très bien avec la musique de Gainsbourg. Oui. C'est pas pour remuer le couteau dans la plaie. Hein,
c'est de toute façon, c'est trop tard. C'est trop tard.
Ouais, c'est fait, c'est fait. 1998, Élodie, vous écoutiez. Unsure what the balance held. I touched my belly overwhelmed by what I had been chosen to perform.
Et en 98, Élodie, on vous découvre avec un vrai phénomène. C'est un film qui nous a pas quittés, c'est La vie rêvée des anges, aux côtés de Natacha Régnier, un film d'Éric Zonka. Qui vous vaut un prix d'interprétation à Cannes, encore un autre prix. Comment cette aventure-là, avec le recul, encore une fois, vous la percevez comment ? Parce que vous êtes quand même rentré dans la vie des gens avec ce film.
Oui, bah, j'ai eu de la chance. J'ai eu une chance inouïe de participer à ce premier film d'Éric Zonka, d'avoir une espèce de révélation avec ce personnage qui me tombe du ciel quelque part. En tout cas, la manière dont je l'ai attrapé, pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il m'est tombé dans les bras, en fait.
Il a été écrit pour vous, ce rôle, en plus. Éric Zonka l'a écrit pour vous.
Oui, il l'avait écrit pour moi après avoir vu Les Roseaux Sauvages. Mais... Et puis toute l'aventure qui a suivi, c'est-à-dire l'aventure... Nous, on allait à Cannes de manière très naïve avec ce premier film, sans jamais oser imaginer ce qui allait suivre. Et puis voilà, donc c'est une chance, c'est toujours une chance incroyable pour un acteur de pouvoir faire un film qui marque à ce point... les gens, en fait.
Ouais, tout le monde est un peu tombé amoureux de cette femme, jeune femme. Vous avez un souvenir particulier d'une projection de quand ça a été présenté à Cannes ? Parce que là, c'est quand même un moment où vous dites on va à Cannes comme ça sans se rendre compte. Et voilà. Pourtant, le film, à un moment, rencontre un public.
Oui, en fait, j'avais déjà été à Cannes avec Les Roseaux Sauvages. On avait présenté le film, il faisait la clôture de la sélection Un Certain Regard. Et là, on y allait en compétition avec La Vie Rêvée, ce premier film. Et je me souviens très bien justement de cette projection où il y avait un silence, une espèce de... Ce que je pense était un silence d'extrême concentration, mais pour nous, c'était un silence du genre...
Qu'est-ce qui se passe ?
Il y avait pas, ou ouais. Voilà. Et puis voilà, le film se termine et les gens... arrive ce qui arrive, ce qu'on peut rêver à Cannes, quoi. C'est-à-dire, on voit dans le regard de tous ces gens qui se lèvent et qui se retournent vers nous un amour inconditionnel, immédiat pour ce film et ses personnages.
Dans cette même période, Lolita, vous écoutiez Radiohead. Qui a été dans des BO, mais alors, le nombre de BO où il y a dû y avoir ce titre-là.
Ah
ouais, No Surprise, j'adore.
C'est très triste aussi, mais... C'est bon.
Ouais. Non, c'est pas que triste, ouais.
Non, c'est
d'accord.
Pas que triste.
Ouais. C'est doux. La musique vous accompagne à quel moment, d'ailleurs, dans la vie ? Vous jouez d'instruments ?
J'ai joué beaucoup de... Enfin, quand j'étais petite, je jouais de la harpe. Voilà, ça j'en ai fait un certain temps, mais après j'ai arrêté pour faire d'autres choses. Mais sinon,
sans regret.
Enfin, j'aimais beaucoup. J'avais choisi cet instrument très petite, donc j'en ai fait quand même longtemps. Mais non, sans regret. Après, la musique m'accompagne. Voilà, je m'autorise pas totalement à chanter, mais je chante un peu parfois. Voilà, j'ai chanté une bande originale justement avec Benjamin Biolay sur un film que j'ai fait il y a quelques années qui s'appelait Gabi Baby Doll, où il m'a fait chanter le générique de fin. Voilà.
C'était une bonne expérience.
Ouais,
complètement.
Vous êtes en train de dire, vous auriez dit oui à Gainsbourg en fait.
Oui. Mais après, non, j'aurais dit oui aujourd'hui, mais
oui, bien sûr.
Après dans la vie parfois,
c'est
les moments sont pas les moments. Voilà.
Et alors en 2000, vous décrochez le premier rôle dans La Vie Moderne de Laurence Ferreira Barbosa. Vous étiez toute jeune encore ?
Oui, très jeune, j'avais 15 ans. Voilà, c'était... J'arrête pas de dire que tout est des hasards, mais c'est vrai que quand j'avais 4 ans, c'était un hasard. Et quand j'avais 15 ans, c'était aussi encore un peu un hasard.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je l'avais pas vraiment choisi, j'ai croisé Laurence par hasard. Et voilà, et c'était une sorte d'évidence pour elle que je sois ce personnage de Marguerite, qui était l'histoire d'une jeune fille mystique, en fait, qui croit très fort en Dieu et qui vit un peu avec Dieu. Mais oui, je dis que je l'ai pas choisi parce que je pense pas à 15 ans m'être dit voilà, je suis actrice. C'est venu plus tard, le choix conscient.
Et c'est vrai que vous preniez des cours de théâtre pour lutter contre votre timidité ?
Oui, c'est vrai. J'étais au cours Florent à cette époque-là et j'étais très très timide, ouais. Mais je prenais quand même des cours de théâtre. Je montais très peu sur scène, je dois dire.
Est-ce que ça aide, oui,
je restais beaucoup dans les gradins. Ça aide, ça aide vraiment. Maintenant, je suis moins timide, mais à 15 ans, ça a dû m'aider. J'ai fait beaucoup de théâtre après, par la suite, dans d'autres écoles, etc. Bien sûr, bien sûr, ça m'a aidé.
Mais est-ce qu'on se sent regardé différemment sur un plateau de tournage quand on s'appelle Lolita Chama et qu'on sait que dans la lignée, il y a Isabelle Huppert?
Je pense que pas que sur un plateau de tournage, on se sent toujours... C'est très psychanalytique comme émission.
Bougez pas, il arrive.
Non, on se sent regardé toujours différemment. Ça, c'est un peu l'histoire de ma vie.
Ouais. Voilà. On se demande pourquoi on est regardé, si on nous sourit par affection ou par...
Par calcul.
Par intérêt ou par sorte de flash d'un visage qui pourrait réapparaître.
Bien sûr. Non, mais bien sûr. Ou alors... Non, ça, vous avez tout à fait raison. Je pense que le flash, c'est quelque chose qui arrive souvent, je pense, pour les gens qui me connaissent pas, qui me connaissent autour de moi, qui m'ont vu grandir, bien sûr. Et puis après, là, évidemment, de penser qu'on nous parle pas pour des bonnes raisons, ça aussi, c'est un sentiment que je connais très bien. Mais après, bon, dans la vie, faut essayer de faire le vide aussi et d'avancer et surtout de croire à la bienveillance.
Ouais, voilà. D'autant que c'est valable pour toute personne avec une notoriété ou être reconnue après avoir un rôle, un prix, que l'on soit le fille d'eux ou pas.
Oui, de toute façon, quand
gérer la notoriété, c'est
voilà. Quand on fait partie d'une famille connue, ce qui est mon cas, après ça devient sa vie, donc il faut apprendre à vivre avec.
En 2005, Élodie, vous écoutiez.
Et là, j'adore 2005, Élodie, on vous retrouve dans une série mais que j'ai regardée mais tout le temps, c'est Alias. Mais je crois que j'ai sacrifié plein de samedis soirs pour voir cette série qui était diffusée sur M6 à l'époque. Voilà. Voilà, c'était une petite confession, mais j'adorais cette série, quoi.
Je dis, le psy arrive dans deux secondes.
Et
ouais, vas-y.
Élodie, vous incarniez cette espionne française dans la série. Comment vous arrivez aux États-Unis dans une série qui cartonne, qui est vraiment à ce moment-là.
Oui, c'était un peu les toutes premières avec 24 heures. Ben, en fait, il se trouve que l'été, je reçois un coup de fil des États-Unis. On me dit, voilà, J.J. Abrams voudrait que tu sois dans cette série Alias, que moi, je ne connaissais pas. Et en fait, je dis, bon, ok, donc faut que je fasse quoi? Je me mette... Vous savez, souvent, les Américains, ils nous demandent de nous faire sur des tapes, là, des autocastings, et on leur envoie le truc. Donc, je dis, oh là là, galère, donc faut que je fasse quoi? Je trouve une caméra pour me mettre sur tape, pour la envoyer. Et en face, on me dit, non, tu vas faire tu as le rôle si tu le veux. Je dis oui, mais bon, quoi? Alors il faut que j'y aille, il faut que je me présente. Non,
ils viennent tourner chez toi, dans ta chambre.
Donc c'était très étrange. Et puis voilà, donc en fait, je me suis retrouvée là-dessus parce que J.J. Abrams est un très grand cinéphile et qu'il m'avait vu dans Les Roseaux Sauvages. Et que d'ailleurs, si vous avez vu la série, très vite, il s'est autorisé, parce que si la série marchait très bien, à avoir des acteurs qui venaient du monde entier. Il choisissait les gens comme ça dans le cinéma du monde entier.
Moi, je pensais que c'était une façon d'aller attirer du public à l'étranger, mais non, c'est à mettre sur le compte de sa cinéphilie, en fait.
Moi, j'ai l'impression,
D'accord. Mais vous parliez anglais, parce que c'est super physique, Alias.
Non, allemand, elle t'a déjà dit.
Je sais. Et pour ce rôle-là, il a fallu, j'imagine.
Je parlais déjà un petit peu anglais, mais pas couramment.
Ouais.
Mais oui, c'était très physique, parce que du coup, j'ai regardé les quatre saisons et quand j'ai commencé à voir Jennifer Garner qui.
Vous faites du kung-fu, donc ça va?
Oui, mais elle allait. Elle était dans des voitures qui coulaient au fond de l'eau et elle devait sortir. Je me suis dit, mais je vais pas. Comment je vais faire, moi?
Lolita, vous écoutiez dans ces années 2006. J'adore. Niagara. J'attends que mes larmes viennent. Alors c'est pas le plus gros succès Niagara. Pourquoi avoir choisi ce titre?
J'ai toujours adoré cette chanson. Je sais pas pourquoi. Depuis très longtemps. Et à cette époque-là, je l'écoutais beaucoup. Je l'ai écouté à beaucoup de périodes. Je sais pas, parce que j'adore le texte. Voilà. Pendant que les chants brûlent, bah nous, on est là.
Le psy arrive.
Et en 2006, vous, Lolita, vous montez sur scène pour la première fois dans l'école des femmes. C'est Colline Serrault qui vous entraîne sur les planches. La timide que vous étiez, comment elle
ah ouais,
se...
Ah ouais, ça a dû être une torture.
Ouais, c'était dur. Comment elle fait face au public du Théâtre de la Madeleine?
C'était très dur. Après, j'ai fait pas mal de théâtre. Là, je viens de finir une pièce, donc maintenant, le théâtre fait partie de ma vie. Mais à cette époque-là, c'était comme une sorte de baptême. Je suis quelqu'un de très, très traqueux, donc ça avait très mal commencé. J'avais beaucoup le trac. Mais disons que...
Ça se traduit comment? Par un mal-être
Oui, le sentiment qu'on va pas y arriver, quoi. Avant de rentrer sur scène, moi, personnellement, je me demande pourquoi je fais du théâtre.
Pourquoi je suis là.
Mais après, c'est tellement magique aussi, le théâtre.
Est-ce que ça disparaît, justement, dès les premières répliques?
Non, ça disparaît pas, mais ça se... Bon, après, on joue, on est obligé, On peut pas partir en courant, mais en tout cas, il y a quelque chose de tellement magique. Enfin, moi, j'aime de plus en plus faire du théâtre parce que la scène, c'est un sentiment unique quand même. Et donc, j'ai un très beau souvenir avec Colline Serrault.
Agnès.
Alors donc, nous allons revenir sur le sujet d'Aurore avec Antoine Guédonné. Vous avez rendu compte, il y a du travail. Et pas que sur nos invités aussi. Je crois autour de cette table, il y a du boulot. Il y a du boulot. Vous êtes pédopsie donc, et psychanalyste et chef du service psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Bichat à Paris. On parlait tout à l'heure de cette scène de crime où... Une petite fille tue un petit enfant, tout ça devant une autre petite fille qui est la sœur de Polo qui se fait tuer. On évoquait tout à l'heure la violence et je disais quelle est la limite entre ce qui peut être un jeu pour un enfant et ce qui devient de la violence au sens presque gratuit du terme. Il y a un âge où on se rend compte qu'on est violent et où ce n'est plus un jeu?
Je crois, oui. Et on s'en rend compte très tôt. Dès que les enfants sont, même des très petits enfants, dès qu'ils ont le sentiment qu'ils peuvent faire mal de façon intentionnelle, c'est très clair, très tôt dans la vie, ça.
Mais très tôt, un bébé peut griffer, des enfants peuvent mordre maman au moment de...
Couper les moustaches du chat.
Non mais par exemple, il y a là, déjà quand, au moment de téter, un enfant peut mordre et faire du mal à sa maman.
Saint-Augustin. Il a un des premiers décrit l'envie de l'enfant qui regarde l'autre enfant qui est au sein de sa mère et le premier-né qui regarde ça avec envie. Et c'est le thème de ce qui se passe dans le drame de votre film que j'ai vu avec beaucoup d'intérêt. Elle envie la vie de ce petit garçon, la mère de ce petit garçon, l'attention qu'il a. Et c'est apparemment c'est le moteur de ce drame, quoi.
Les causes principales de la violence chez l'enfant, est-ce que c'est l'éducation, est-ce que c'est le contexte social, est-ce que c'est l'école, est-ce qu'on sait, parce qu'il peut y avoir un enfant dans une même fratrie.
Violence, c'est pas une maladie,
C'est pas génétique non plus. On ne naît pas violent.
Si on est tous, si on est humain, on est violent. On est les animaux les plus violents de la création.
Donc ça se fait dans l'autre sens, on l'a tous en nous, et après c'est comment, par l'éducation, l'entourage,
On a cette violence qui est intrinsèque, qui est fondamentale, et qui s'exprime par l'agressivité. L'agressivité, c'est quelque chose d'essentiel à la survie. C'est ce qui nous permet de se battre, de se défendre.
Ou de survivre.
De survivre.
Alors il y a violence contre les autres et violence contre soi. Aussi, c'est la même forme de violence?
Tiens, je crois pas du tout. Non. La violence contre l'agressivité, en fait. La violence, en fait, c'est vu du côté du sujet. C'est l'autre qui
subit
reçoit
une
agressivité, quelque chose qui viole ses droits ou son intégrité physique. Donc c'est l'autre qui parle de violence. L'enfant, il parle pas de violence. Il parle d'agressivité, il parle d'envie, il parle de
de désir.
De jalousie.
De jalousie, d'envie, de jalousie, de haine, oui.
Mais alors, ce qui est surprenant, c'est que vous dites, c'est normal, c'est naturel, ça nous permet de vivre ou de survivre, et en même temps,
d'apprendre,
c'est la première chose que l'on cherche dans l'éducation d'un enfant à canaliser ou à bannir.
Absolument, et ça s'appelle élever un enfant. C'est-à-dire lui donner les moyens de contrôle de son agressivité, de sa violence, d'en mesurer les effets. Avec c'est ce qu'on fait comme parents, ce qu'on nous a appris comme enfants. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas que
l'on te fasse.
Te fie.
Ouais. Ou que l'on te, fie, d'accord. Oui, concordance des temps, c'est très important.
Non, mais subjonctif imparfait disparaît de temps en temps,
ouais,
il
ressurgit.
C'est bien.
Écoute, est-ce que le conseil que vous donneriez à des parents qui ne savent pas gérer la violence d'un enfant serait, ça suffit de dire ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, ou il faut passer à la menace, à la punition,
l'abandon.
Il te mord, je te mords.
C'est ça.
Voilà, oui, surtout, sûrement pas la loi du talion. Parce que parents et enfants sont pas à la même position, ouais. Et si on mord un enfant qui vous a mordu, on se met à sa niveau. Et en fait, on perd toute
on lui
position
envoie, on lui
d'autorité.
On envoie comme code que la violence est une forme de message.
Voilà.
Si ouais. On fait, si
enfin,
on
faut que je prenne des notes.
Ouais, prends des notes. Donc, quel conseil donneriez-vous à ce moment-là?
D'une part, de ne pas exercer de violence vis-à-vis de l'enfant.
Donc, pas de fessée, évidemment.
C'est une autre affaire.
Dans son regard, il y a autre chose. Hein.
C'est plus permis. Je pense qu'il faut, il faut parler.
Ce
faut
n'est
dire
plus permis ou c'est plus permis, pardon. Votre.
Non, ce n'est plus.
Ce
permis.
N'est plus. Ce oui. N'est plus. D'accord.
Ce n'est plus. Et je pense que c'est une bonne chose que ça ne le soit plus. La première chose, c'est de pas exercer une violence, c'est d'exercer son autorité. La définition de l'autorité, c'est se faire obéir sans contrainte. Mm-hmm. Sans contrainte.
Ça veut dire comment on fait, on discute
ni
avec
physique,
eux pour leur faire comprendre que ça suscite de la douleur chez l'autre. Parce qu'en fait,
oui.
C'est ça, c'est qu'ils n'ont pas conscience que l'autre a un univers aussi mental et qu'il souffre.
Exactement, exactement. Mais les enfants sont en fait, ils sont très sensibles à l'univers de l'autre, spontanément.
Ouais.
Le problème, c'est quand ils ne le sont pas, c'est à cause de conditions d'élevage calamiteuses. Mais spontanément, les enfants, ils ont une tendance à coopérer avec les autres, gratuitement. Ils ont une tendance à s'intéresser à l'autre. Et
être
sociable. Ils ont très très vite le sentiment des règles morales de ce qui se fait et de ce qui se fait pas. Mmh. Et c'est basé sur ce qui se passe à la maison.
Alors quand il y a un acte, justement, comme dans Aurore, quand il y a un acte d'une violence extrême, puisque...
Quand il y a la mort,
oui.
Ouais,
je vois pas ce qu'il peut y avoir de pire. Comment vivre avec, comment s'en sortir, puisque vous avez eu la gentillesse de regarder
le film ouais. Le décrit très bien, c'est... Elle s'en sort pas. Elle s'en sort pas. Ou très très durement et difficilement. Mais le meurtre, c'est un accident dans le film. Et la plupart de ces catastrophes qui apparaissent, c'est des accidents. Il n'y a pas de désir volontaire de tuer l'autre.
Mais ça arrive quand même dans les...
Ça arrive,
je me souviens du bouquin de Martin Monestier sur les assassins d'enfants, qui est très intéressant, où il y a des cas, et là on touche à l'indicible, à l'inimaginable, comme disait Jean-Dominique Besnier tout à l'heure. C'est, c'est-à-dire qu'il y a aussi, dans certains meurtres d'enfants, des meurtres qui se font sans aucun remords, avec une froideur extrême, comme, et même de la préméditation, ça existe aussi, comme chez certains adultes. Et ça, c'est très troublant, parce qu'on touche à quelque chose de profondément tragique.
Oui. Oui, les enfants sont capables de tout.
Oui, non, mais alors on ne pardonne pas plus à un enfant
voilà,
qu'à un adulte.
Pardon,
oui, c'est ça.
Voilà.
C'est pas, on ne dit pas, bah, c'est un enfant, qu'est-ce que vous voulez on
tu
peut
fais
pas...
des bêtises comme les autres.
Oui, c'est ouais. Ça.
Oui, ça c'est un débat qui me dépasse. Hein. Je ne suis pas forcément le spécialiste de la question de la chose. C'est plus quelque chose qui concerne la loi, la société, la réponse sociale à la chose. Pour ce qui me concerne, moi, je vois et je soigne des enfants et ils sont violents dès le début de leur vie. Ils sont avec une agressivité physique dont la tâche de la société, des parents, de l'école est de leur apprendre à la canaliser pour leur permettre... de faire le jeu humain qui est l'échange avec l'autre, s'amuser, travailler avec les autres.
C'est-à-dire qu'il y a un travail possible. En tout cas, on peut réussir à aider un enfant à transformer ça en positif.
Toujours.
Ouais. Il n'y a même pas un point commun, un point de départ de cette violence, de la naissance de la violence. Il n'y a même pas une explication sans qu'elle soit cartésienne.
Elle existe, elle fait partie de nous, c'est intrinsèque.
C'est ça, oui, mais elle fait partie
l'agressivité
de tout.
L'agressivité est intrinsèque.
Elle fait partie de tout le monde. Vous dire que même Lolita Chama, dans sa timidité, est violente.
Oui, oui.
Très violente.
Non, mais... C'est une menace ?
Non, pas du tout.
Non, mais consciente, ouais, je pense. De...
Oui, non, mais on, c'est vrai que, comme vous dites, on a tous de la violence en nous, après...
Élodie ?
Donc, en fait, la canalisation de la violence est entre les mains des parents.
Oui.
De la violence de l'enfant est entre les mains des parents.
Ou des parents de, et du groupe ensuite de l'école. L'école joue un rôle considérable.
C'est une question d'Élodie, ouais, ou une question d'une maman là, qui vient d'être posée.
Les
mais
deux.
Ça la regarde. Mais c'est. Et aussi des éducateurs, parce que je pense que l'école aussi a un rôle dans tout ça.
Majeur,
et la société.
Majeur, fondamental.
Donc c'est pas uniquement maman ou papa qui est responsable, c'est aussi tout le cadre social dans lequel l'enfant grandit.
Exactement, exactement. Mais ce qui est important, c'est qu'à la maison, les règles. Morale soit appliquée, c'est-à-dire ne fais pas ce qu'on veut. Et une des pires choses, c'est fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Il faut vraiment que les gens, les parents donnent l'exemple, c'est-à-dire qu'on ne viole pas les choses, on n'est pas agressif.
S'il y a une règle, on la respecte.
Exactement.
Et si on menace, moi je me souviens toujours d'un copain, c'est pas une menace du tout violente, hein, qui était dans un restaurant avec son enfant et qui lui dit si tu continues de faire du bruit avec le couteau, je te préviens, je te ramène tout de suite à la maison. Évidemment, le petit garçon le regarde et fait ting ting avec le couteau. Et ben, le papa s'est levé, a pris l'enfant et est allé jusque chez lui et s'est lui-même privé d'être au restaurant avec les autres parce qu'il est allé au bout
c'est très bien.
De sa menace.
C'est très bien.
Parce que souvent, on
entend
aussi.
Il était en vacances, il habitait à 600 km.
Il a fait quelque chose d'important. Il a prévenu, il a pas menacé.
Exact, ouais. Ouais, il a donné les clés pour que l'enfant comprenne.
On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait.
Merci Antoine Guédonné d'être venu à ce micro. On va reparler d'Aurore avec... pardon ?
Ça doit être fatigant, on se disait.
De quoi,
C'est pas facile.
Enfin, c'est pas facile à
d'avoir
faire,
des enfants.
Non, ça oui, ça y paraît, mais...
On est très en retard.
Bah, je te laisse.
Ok, d'accord, merci. Tanguy Pastureau, tout à l'heure, Xavier Dupont de Ligonnès est toujours introuvable et vous allez nous en parler.
Oui, à tout à l'heure. On est très en retard.
Mais non, mais vas-y.
Il s'est évaporé en fait, oui, comme Jean-Vincent Passé il y a 7 ans. Et voilà, donc hier on a cru qu'on l'avait identifié, mais dans un monastère, ce n'était pas lui, Nagui.
C'était moi.
Depuis quand tu vas à la cantoche ?
Oui, j'aurais pas le temps d'y aller, c'est ça que tu veux dire, j'aurais pas le temps. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la bande originale avec Leïla Kaddour Boutadi.
Bonjour à tous.
Marina Rollman, qui sera à la cantoche. Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Daniel
Bravo.
Morin.
Bravo,
Albert Algou.
Bonjour.
Et nos invités, Élodie Bouchetel et Loïta Chama.
Bravo.
Bravo. Deux enfants sur une scène de crime, c'est le point de départ de cette mini-série. Trois épisodes qui seront diffusés tous les trois demain soir, 20h55, sur Arte. Et visible également sur arte.tv si vous voulez les voir sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur.
Avec un super casting, parce qu'on n'a pas parlé d'Hélène de Filière.
Exactement. J'adore. Non, on a dit qu'on en parlera pas.
André Vims, par exemple, Aurore Clément. Anna Mouglalis. Voilà. J'ai envie de dire, il y a un casting quand même assez impressionnant dans
Anna,
cette série.
Que nous
je l'avais dit tout à l'heure.
Anna, que nous recevrons lundi avec Pascal Elbé.
Ouais. Pour le Baron Noir.
Exactement. Revenons donc au sujet d'Aurore et au sujet d'horreur. Jeu de mots facile, mais c'est quand même le point de départ de ces deux enfants qui, l'une va tuer un petit garçon et tout ça devant les yeux de la petite sœur qui doit avoir à peine 4 ans avec son doudou terré dans un coin, ne comprenant pas ce qui se passe. D'ailleurs, personne ne comprend ce qui se passe, même pas la petite qui passe à l'acte et qui, on peut avoir le sentiment dans un premier temps, le fait avec une espèce de sang-froid, de je m'en foutisme total, mais comme c'est votre personnage, Élodie, lorsque vous serez adulte, vous allez traîner comme un poids, évidemment, comme un poison et comme un boulet cette affaire, surtout lorsque vous allez être confronté à nouveau avec votre passé, croyant peut-être avoir mis le couvercle sur cet incident. Et le passé revient par un journaliste. On l'a pas évoqué.
Oui.
Ce journaliste qui veut faire un papier, voilà, qui est juste parfait. On a déjà parlé de lui hier pour Normandie Nue, dans lequel il est avec François Cluzet, mais qui est juste parfait en journaliste, qui sait pas trop ce qui se passe là.
Ben, ah, il est pigiste, il remplace.
Je suis un pompier.
Il fait le sport.
Il est au sport. Ouais. Moi, je suis au sport.
Le mépris pour les journalistes sport.
Il est totalement décalé. Totalement décalé. Et même il a un peu peur de ça. savoir dans quoi il a mis les pieds au moment de cette scène, enfin de différentes scènes où il réalise au fur et à mesure ce qui se passe. Et en l'occurrence, il y a la rencontre, puisque c'est pas le cas dans le premier épisode, qui met en situation tout ce que nous sommes en train de raconter, mais après, tout prend un autre rythme, une autre mesure à partir du moment où on est dans la vie adulte et vous vous rencontrez toutes les deux. Et où votre personnage va rencontrer le personnage joué par Lolita Chama.
Oui, bah le personnage de Lolita force évidemment la rencontre et le destin, puisque c'est son but.
Oui. Enfin, elle veut faire ressurgir le passé. Justement, quand elle tombe sur cette coupure de journal, tout d'un coup, tout explose en elle. Enfin, elle part dans sa voiture de cow-boy.
Contre la vie
contre
de son
la
papa.
Vie de son père. Mmh. Elle laisse ses chevaux et elle va à la rencontre d'Aurore, quoi. Voilà, se faisant passer pour une écrivaine, mais enfin voilà, elle va à la rencontre d'elle-même finalement. Voilà.
Ouais, c'est ça, c'est sa quête, c'est plus de comprendre ce qu'elle a vécu que de...
Oui, puis de comprendre, enfin d'essayer de comprendre, si tant est qu'on peut le comprendre, pourquoi Aurore a commis cet acte et qui atteint quelque chose d'organique chez Maya, mon personnage, puisqu'elle a tué son frère. Donc,
Et pourquoi elle s'en est jamais excusée, en tout cas?
Oui, voilà.
Pourquoi c'est jamais manifesté?
Et puis il y a une autre sœur aussi dans l'histoire qui, elle, a fui. Une qui ne veut pas savoir ce qui se passe, c'est-à-dire que l'intrigue aussi est de savoir est-ce que c'est un règlement de compte que veut faire, et évidemment nous ne le dirons pas, et c'est un règlement de compte que veut faire votre personnage vis-à-vis de la meurtrière de son frère, ou est-ce que c'est un règlement avec soi-même, ou est-ce que c'est pour comprendre ou pour apprendre. Et à propos de spoiler, je voudrais m'adresser à l'une des personnes qui gentiment sur Twitter m'a agressé hier en disant que j'avais spoilé, nous avions spoilé Normandie nue.
Divulgâché, déjà, voilà, on va prendre les bons mots.
En disant qu'il y avait une photo donc, qui était faite à la fin du film, nue, de tous les paysans. C'est le principe du film, c'est dans la bande-annonce, et c'est François Cluzet qui l'a raconté. Je suis désolé, monsieur, qui m'a fait un compliment formidable. Il m'a dit, arrêtez de voir les films dont vous parlez à la radio, s'il vous plaît, monsieur. Donc je suis désolé,
on
monsieur.
Bien.
Nous continuerons d'aller au théâtre, de voir les films avant et de lire les livres. C'est le moindre des respects que nous devons à nos invités.
En même temps, ça fait toujours plaisir de vous insulter, Nagui.
Ceci. Ah, c'était toi. Ceci étant dit, voici Tanguy Passion qui a fait l'info. Tanguy, hier, on a cru un moment que l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès touchait à sa fin.
Oui, Xavier Dupont de Ligonnès, c'est cet homme soupçonné d'avoir tué sa femme, ses quatre enfants et ses deux chiens, de les avoir enterrés sous sa terrasse, ce qui fait que le meurtre a été un temps imputé à la communauté portugaise et qui depuis a disparu, à l'instar de la retenue de Mathieu Kassovitz et des vêtements tendance d'Alain Duhamel.
Non.
La dernière fois qu'il a été vu vivant, c'était à la sortie d'un Formule 1. Comment vous expliquer, Nagui? C'est comme les hôtels dans lesquels vous allez, sauf qu'on partage les WC avec l'ensemble des autres clients. Vous entrez, vous avez la patate. À 9h du mat le lendemain, une mycose génitale vous a mangé la moitié du corps et vous décédez sur le parking entre deux Opel Corsa. Le rêve pour Philippe Lelouch de Top Gear, un cauchemar pour les autres. Depuis 2011, plus rien. On ne sait pas si Dupont de Ligonnès est vivant ou mort ou entre les deux, comme Jean-Marc Ayrault. Il a quand même été reconnu en 7 ans par plus de 1000 personnes et jusqu'en Thaïlande, où des touristes sortant de la discothèque, The House of Opium, l'ont formellement identifié. Selon eux, il se baladait avec Kurt Cobain et Jean Le Canuet sur le dos d'un éléphant qui a pris place dans une montgolfière. Bref, soit Dupont s'est donné la mort, lassé d'être seul devant un gigot pour 6 le dimanche, soit il est là et se planque. Or, la Terre est grande, sauf pour Christopher Froome, qui sous stéroïde peut en faire le tour en 16 heures avec un vélo d'appartement. Donc c'est comme de chercher un morpion sur le pubis d'un fan d'épilation intégrale. Il peut être n'importe où, dans un lieu vide, comme le siège du Modem ou le regard de Nabila, ou au milieu d'une foule. Si ça se trouve, il est dans le public de notre émission. Hein? Non, il a 57 ans, là, à l'évidence, presque tout le monde a plus. Quand soudain, hier, on apprend que des témoins auraient aperçu Dupont de Ligonnès dans un monastère lors de la messe. Les mecs pensaient voir la Vierge, c'est Dupont qui est apparu. Déception. Hein, c'est comme à Fort Boyard, quand on se dit, super, je vais défier l'ex-Miss France, la vie de ma mère, elle est trop belle. Et là, vous entrez dans une pièce où il faut juste battre le maître du temps avec son masque de tigre au Rubik's Cube. Donc là, les enquêteurs se disent, le monastère est à Roquebrune, dans le Var, là où se situe le Formule 1, on l'a vu en 2011. Donc si ça se trouve, il n'a pas bougé. Ce serait l'Abdelaziz Bouteflika de la cavale. En plus, les moines ont fait vœu de silence. Ils ne répondent à aucune question. Vous leur dites, ça va vieux? Ils se taisent. Vous leur dites, ah la vache, votre coiffure, c'est pas tip-top. Si Christina Cordula déboule, elle va péter un cap. C'est quoi le projet Bad Kim Jong-un? Ils se taisent. 16. Vous leur demandez, produisez-vous de l'agneau pour entrer en communication plus vite avec Dieu? Ils vous tendent une bouteille, mais en silence.
Mais ça veut dire que des moines pourraient héberger Xavier Dupont de Ligonnès sans le dire, forcément.
Absolument, c'est absolument. Long. Pour bénéficier d'un tel silence, il y a juste un monastère ou un live de Loudoyon. L'opération qui a mobilisé 20 policiers de la PJ, quand même, hein, s'est donc déroulée sans gyrophares ni sirènes pour ne pas nuire à la sérénité des lieux. Hein, ils ont toqué une fois avec le petit doigt. Un frère est arrivé, a dit « C'est quoi ce bordel? J'ai cru que c'était une attaque nucléaire. Vous êtes con de faire autant de bruit ?» Le policier a répondu « On vient chercher Dupont de Ligonnès, hein, on va tout fouiller. Et si vous avez du shit, donnez-le-moi. J'ai pas eu le temps de faire un cadeau à mon fils pour Noël. Il a 9 ans, j'ai pas d'idée. » Les flics de la PJ ont investi le monastère en marchant sur des patins pour pas faire de bruit sur le sol. Et là, ils ont mis la main sur un petit trésor. Une cassette vierge de 90 minutes, c'est l'équivalent d'un album de Megadeth pour les gens qui ont fait vœu de silence. Une lettre de Christine Boutin disant « Mes frères, j'ai péché, j'ai subrepticement pensé au sexe en voyant à la télé Sébastien Chabal parce qu'il ressemble trop à Jésus. » Et une autre lettre de Patrick Cohen d'Europe 1 disant « Je n'ai plus personne vers qui me tourner à part Dieu. Pouvez-vous lui demander de faire quelque chose pour mes audiences ?» Mais pas de Dupont de Ligonnès. En fait, voilà, il s'agissait juste d'un sosie, hein, d'un moine qui lui ressemblait. Voilà, un sosie. Et autant être sosie de Johnny, vous bossez, il est plus là et les fans si. Donc pour 4 minutes de Gabriel, vous facturez 10 000. Autant être le sosie de Dupont de Ligonnès. C'est aussi ingrat que de ressembler à Heinrich Himmler quand on vit à Tel Aviv. Donc le type s'est cloîtré. Frère Paul, l'un des moines interrogés, affirme même ne pas savoir à quoi ressemble Dupont de Ligonnès. Ils sont coupés de tout. Ils n'ont même pas BFM. Rutel Krief, Apolline de Malherbe, Florian Philippot, ça leur dit rien. S'ils voient les images de Macron en Chine, ils disent c'est quand même bizarre qu'on envoie le stagiaire de 3e pour un voyage aussi important au niveau diplomatique, mais qui sait. Donc Xavier Dupont de Ligonnès est toujours introuvable. Il était de Nantes, donc si ça se trouve, il est juste dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à fabriquer des macramés dans une yourte ou n'importe où ailleurs. Attendez, je regarde sous la table. Non.
On peut continuer, c'est bon. Merci Tanguy Passion.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Parlons de vos projets. Le film, le nouveau film, 31 janvier, qui sortira, s'appelle Gaspard va au mariage. Un film dans lequel vous jouez.
Oui, je fais une petite apparition amicale.
Avec, c'est un film d'Anthony Cordier avec lequel vous aviez déjà travaillé, voilà. C'est ça l'apparition qui consiste en quoi? Vous jouez quel personnage?
Je fais un personnage fantomatique, donc c'est... voilà.
D'accord, bon, ok, j'ai bien compris, je ne vais pas en dire plus. Jeanne Herry, que nous adorons pour avoir vu son premier film, ouais. Prépare son...
on vient de terminer le tournage.
J'ai envie de dire le deuxième, parce qu'on dit second, généralement c'est qu'il n'y en a pas trois, mais on va dire deuxième, comme ça il y en aura plein d'autres. Les Champs de Fleurs, là, que faites-vous?
Alors là, c'est un film qui...
Avec Sandrine Kiberlin, c'est ça?
Voilà, Sandrine Kiberlin, Gilles Lelouch, entre autres. Et c'est un film qui traite de tout l'univers, l'adoption. Le monde de l'adoption.
D'accord. Et enfin, vous serez également une année chargée au casting du nouveau film d'Éric Zonka, avec à nouveau Sandrine Kiberlin.
Oui, et Romain Duris,
et Romain Duris, Cassel. Fleuve Noir.
Voilà. Et aussi le film d'Alex Lutz qui s'appelle Guy, que je viens de voir et qui est extraordinaire.
Parfait. Année chargée également pour vous, Lolita. Vous serez à l'affiche Lolita Chama de Notre Petit Secret, oui. De Christophe Lemann. Là, vous êtes avec Philippe Robot, dont on a parlé, Grégory Montel, Olivia Côte, votre personnage étant... Enfin, ou l'histoire même du...
C'est l'histoire, j'ai pas vu le film parce qu'on l'a terminé il n'y a pas très longtemps.
C'est dans l'Eurostar, hein, c'est ça?
Non, c'est Grégory Montel. On fait une famille, on fait deux frères et deux sœurs qui revient de Londres. Oui, c'est vrai qu'il y a écrit ça quelque part.
Ouais,
comme c'était
ça.
Le sujet.
Je croyais qu'il y avait un problème de train.
Oui, c'est bizarre, mais bon, train. On dit qu'il a pris l'Eurostar.
Enfin, surtout plus grave, il rate l'enterrement de sa maman.
Voilà, c'est ça surtout le sujet. Et c'est l'histoire d'une fratrie qui se. Enfin, je crois, j'ai pas vu le film encore, mais c'est un peu une comédie dramatique sur la famille. Une famille qui se parle et avec plein de. Enfin, il y a plein d'histoires entre eux après l'enterrement de cette maman. Mais voilà, tout ça sur un ton assez.
Humour noir.
Un peu humour noir, humour exactement. Noir.
Et le théâtre, parce que vous parliez tout à l'heure du théâtre comme... d'abord, vous étiez, encore une fois, il n'y a pas si longtemps au théâtre, vous avez des projets en tête, des envies?
Oui, j'ai des envies et des projets. Là, je viens de terminer cette pièce avec Julie Gaillet au Théâtre des Célestins à Lyon, une pièce américaine sur la perte d'un enfant, un sujet très, très sombre aussi, une pièce qui s'appelle Rabbit Hole, qu'on va reprendre l'année prochaine à Paris, dans un an.
Toutes les deux.
Il y a eu un film avec Nicole Kidman.
Oui, il y a eu un film avec Nicole Kidman, absolument, que j'ai pas vu. Enfin, toutes les deux, il y a d'autres acteurs aussi, Patrick Catalifo Nanou Garcia et Renan Prévost. Voilà.
Non, mais je veux dire, par toutes les deux, le casting sera le même que celui qui était lyonnais.
Oui, enfin, il y a une actrice qui sera plus là, mais bon. D'accord, voilà. Mais en tout cas, Julie Gayet et moi-même, on reprendra la pièce.
Et vous avez envie de quel genre de rôle? Parce que vous dites que c'est à nouveau très noir, très dramatique.
Non, enfin, moi d'ailleurs, mon personnage dans la pièce n'est pas très dramatique. Je fais une sœur plutôt qui est vers la vie, qui sauve un peu sa sœur Julie Gayet, qui vient de perdre son petit enfant. Sinon, mais au théâtre, vous me demandez si j'avais envie d'autres rôles au théâtre. J'ai envie de projets au théâtre, bien sûr, et je...
Que ce soit du classique ou du moderne
J'ai très envie de jouer un monologue. Voilà. J'ai très envie d'être toute seule sur scène et j'essaye de faire que ça va se passer, mais j'en dis pas plus.
C'est-à-dire que vous cherchez des textes déjà écrits?
Oui, je cherche des textes ou qu'on m'écrive un texte aussi. Voilà. Je cherche ça.
Et vous, la réalisation, je crois que vous avez réalisé un court-métrage, Lolita Chama?
J'ai réalisé un court-métrage il y a quelques années, mais qui était pas très bien. Il s'appelait À cause d'elle, avec Raphaël Personnaz et Clotilde M, en 2006. Voilà. Mais...
Deux comédiens qu'on adore, en plus.
Ouais. Voilà. C'était avec eux deux.
Super.
Et non, donc, vous vous êtes dit non, en fait, j'arrête.
Pour l'instant, voilà.
Ouais.
Élodie, l'envie de réaliser?
Non, toujours pas.
M'embêtez pas avec ça, j'ai pas envie.
En tout cas, je vous avais adoré dans Hibou avec Ramzi Bedia, c'était un film superbe.
Oui, très très,
très, très beau,
ouais.
Très très beau film.
Voici Le rêve de Daniel Morin, c'est maintenant.
Ça y est, le Premier ministre s'est exprimé en matière de nouvelles règles de prévention routière. La vitesse sur départementale passe bien de 90 à 80 km/h. Les contrôles d'alcoolémie vont être renforcés. Le téléphone au volant, ça va coûter de plus en plus cher quand on se fera gauler. Bref, on ne pourra plus conduire de façon conviviale et débridée. Une perspective qui m'a plongé dans une déprime insondable. Et moi, quand je déprime, je somnole. Et quand je somnole, je baille. Et quand je baille, je m'endors. Et quand je dors,
je rêve.
Dans mon rêve, je suis chez moi en train de lire Automoto Gestapo, le magazine Sport Mécanique et Nazisme, tout en écoutant, bien sûr, la radio. D'un coup, mon attention est attirée par un flash info. France Inter, flash spécial, retournement de situation à propos des nouvelles dispositions visant à améliorer la sécurité routière. Les mesures annoncées par le Premier ministre étant jugées trop pénalisantes sont totalement annulées. Pour aller dans le sens des associations de défense des droits des automobilistes, l'usage du téléphone est désormais autorisé au volant, ainsi que l'envoi de textos, et ce, même à grande vitesse. Trop cool, on va pouvoir rouler à nouveau en toute liberté. Satisfait de ce que je venais d'entendre, je me replonge dans la lecture de mon magazine et... Oh. France Inter, flash spécial, le gouvernement a décidé de laisser encore plus de liberté aux conducteurs. Il est désormais autorisé, pendant qu'on conduit, de regarder la télé, de se brosser les dents, même de s'épiler les jambes. Au chapitre épilation, il sera toutefois obligatoire de tenir le volant avec ses pieds. Mais c'est que ça devenait de mieux en mieux. Pour fêter ça, je décide de sortir de chez moi pour aller faire un petit tour en bagnole. Oh, je me sens revivre. Oh, plus peur du gendarme. Tiens, je vais fêter les nouvelles dispositions en téléphonant. Allô, allô Nagui, ça va? Non, non, j'ai rien à dire, je t'appelle juste en conduisant parce que j'ai le droit. Voilà, c'est tout. Comment va ta femme? Bien, tant mieux. Embrasse-la pour moi. Embrasse-la bien. Tu sais que je l'aime beaucoup, ta femme. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allô? Allô? Elle a raccroché, bon, tant pis. Oh, purée, est-ce que c'est bon de conduire sans avoir la trouille? Mais merde, j'ai parlé trop vite. Bonjour, monsieur l'agent.
Bonjour, je suis le gentil gendarme de la route.
Il y a un problème, monsieur le gentil gendarme?
Pas du tout, au contraire. Toujours dans un souci de faire plaisir aux automobilistes, le gouvernement a décidé de récompenser les conducteurs, comme vous, en leur offrant une bouteille de Malibu.
Ah, oh, c'est gentil, j'adore le Malibu.
En plus, la bouteille est équipée d'une paille télescopique qui vous permet de boire tout en conduisant.
On a le droit de boire au volant maintenant?
Mais oui, et c'est pas tout. Tenez, poussez-vous, je monte avec vous.
Oh, je vous en prie, allez-y.
À partir d'aujourd'hui, fini les limitations de vitesse. On peut conduire à fond la caisse.
C'est vrai?
Mais c'est trop vrai.
Oh nom de Dieu. Oh, ce que c'est bon.
180, tu peux faire mieux.
Oui, ben on est en ville quand même.
Vas-y, fonce, on s'en fout.
Yeeha, 240 en zone urbaine, j'adore.
Tu sais, parmi les nouvelles libertés accordées au volant, on a maintenant le droit, tout en conduisant, de vers l'amour.
Et je ne savais pas comment repousser les avances de cet homme dépositaire de l'autorité publique. J'ai préféré cracher la bagnole dans un abribus. À demain.
C'était qu'un cauchemar. Merci.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Merci Daniel Morin et Albert Agou. Nous parlons d'Aurore. Ça passera donc demain sur Arte. Si en une phrase, d'ailleurs, Lolita, vous deviez dire à quelqu'un, regarde demain Aurore, parce que...
Voilà, je suis pas forte en synthèse. Regarde demain Aurore, parce que...
Elodie, genre aide-moi, tu m'as toujours aidé quand
regarde
ça allait pas.
Regarde demain Aurore parce que c'est un film singulier, fort, aussi qui, enfin là c'est long hein, déjà, mais en tout cas avec quelque chose à l'américaine, ouais. Un peu comme les séries américaines, ça je trouve ça très beau, un peu à la Twin Peaks.
Ouais, il y a cette ambiance, là, mais c'est juste, je l'avais pas formalisé, mais c'est déjà c'est un bel objet de cinéma si je peux vous aider à en parler. Et non mais vraiment, et j'ai trouvé qu'il y a quelque chose dans l'ambiance qui est à la fois pesant et très attachant. Enfin je veux dire, on n'a pas envie de sortir de cet univers là.
Alors Elodie va aider Lolita Chama.
Je crois que tout a été dit. Non, mais c'est assez agréable de se dire qu'on peut passer un bon moment devant sa télé.
Parce que le sujet, encore une fois, est délicat, mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Ce sont des sujets qui, malheureusement, existent.
Est traité grâce à Laetitia Masson avec beaucoup de lyrisme, malgré tout. Et les choses sont un peu décollées du sol. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le naturalisme, on n'est pas dans le réalisme total. Les costumes, même les paysages, tout évoque du cinéma.
Et de la poésie.
C'est demain donc à 20h55 sur Arte. Des excuses à présenter, Daniel.
Absolument. Désolé pour tous les superbes champions de 800 mètres qui nous écoutent et qui ont été outrés, humiliés par le mépris et les moqueries de Marina Rollman. Écoutez, elle en a bien pris conscience. Elle accepte de se reproduire avec vous. Il suffit de vous présenter d'ici maintenant 3 minutes à la porte B de la maison de la radio. On vous l'envoie. Désolé bien sûr pour le personnel de ménage de France Inter qui va devoir nettoyer le micro de Jean-Dominique Besnéa. Les gars, je vous préviens, mettez un ciré, des bottes, c'est trempé, c'est dégueulasse. Désolé pour notre psy Antoine qui non seulement nous a expliqué la violence des enfants, mais qui en plus a dû repartir avec 3 nouvelles patientes, à savoir Lolita et Leïla, ainsi qu'une pauvre maman qui a très 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 peur pour ses enfants. Pauvre docteur Tonio, il va avoir du taf.
Merci beaucoup d'avoir trouvé le temps de venir à ce micro, Lolita Chama. À très bientôt, au revoir. Et Elodie Bouchez, le rendez-vous est donc donné avec Aurore. Ça sera demain sur Arte. Et nous, demain, nous recevrons Mélanie Douté pour parler de Douce Amère, la pièce de Jean Poiret, qu'elle interprétera aux côtés de Michel Faux. Bonne émission, Philippe Bertrand.
Oui, bonjour Nagui.
Bonjour.
Salut. Je peux vous aider, les amis, si vous voulez, pour la promo d'Aurore.
Oui, vas-y.
Regarde demain Aurore, c'est le seul bon programme à la télé.
Il a la voix en même
temps. Ça, c'est bien.
20h55 sur Arte.
Ça,
ne pas manquer.
Voilà. Ça, c'est
du
grand rêve. En fait, qu'elles ne peuvent pas dire par politesse, Lolita et Elodie pensent que c'est bien mieux ce que vous avez fait là en 10 secondes que nous en 1h30.
Mais nous, on est un peu.
Mais non.
Ça se complète.
Mais non, mais oui, exactement.
Bon carnet de campagne.
Merci les amis. Salut, à demain.
Tant pis.